Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. L'émission de ce soir réalisée par Christian sera entièrement consacrée à l'un des héros les plus anciens et populaires de la BD. Un personnage qui d'ailleurs exerce un bien curieux métier pour un héros. Alors que Tintin est reporter, Lucky Luke cowboy ou Astérix guerrier, notre héros du jour, lui, est groom, c'est-à-dire employé en livrée dans un hôtel. Pas vraiment le job idéal pour vivre d'exotiques aventures, convenez-en. Par chance, Spirou, car c'est bien sûr de lui dont je parle, a pour meilleur ami Fantasio, un journaliste amené à faire des reportages tout autour du monde. Et il va bien sûr l'accompagner. Spirou a aussi pour ami le comte de Champignac, châtelain et savant fou, mais sympathique, dont les expériences vont plus d'une fois dynamiter son quotidien. Il faut bien l'avouer, on a vu Spirou exercer son métier de groom au Moustique Hôtel que dans les tout premiers temps de sa carrière, commencé en 1938. Et pourtant, il portera pendant trois décennies son uniforme rouge, ses gants blancs et ses guêtres. Et son petit chapeau rond reste encore aujourd'hui le symbole du journal qui porte son nom.
Aïe, Marsupilami, j'ai déjà dit que n'appréciais pas ces blagues stupides.
Allons, Marsupilami, c'est pas parce que t'as 6 mètres de queue qu'il faut faire trébucher Fantasio.
Marsupilami, qu'est-ce qui se passe?
Il a flairé une présence dans les taillis, un petit animal sans doute.
T'as entendu? Ambulance buisson. Viens Fantasio. Marsupilami ici. Marsupilami. Plus personne. Mais qui en voulait-il donc?
Attention, 1, 2, 3, c'est l'aventure. Accroche-toi, attache ta ceinture. Car Spirou et Fantasio, malins et rigolos, ont plus d'un tour dans leur chapeau. Attention, 1, 2, 3, c'est l'aventure. Le mystère te collera aux chaussures. Car Spirou et Fantasio, malins et rigolos, ont plus d'un tour dans leur chapeau. Ils emmènent leurs amis, Spipleur, écureuil futé, et le marsupilami, l'animal le plus doué. Attention, 1, 2, 3, fais des valises, tu connaîtras l'Afrique et la banquise. Car Spirou et Fantasio, journalistes rigolos, t'accueilleront dans leur scénario. Tu trembleras devant l'éléphant rouge, devant Zorglu, devant tout ce qui bouge. Mais Spirou et Fantasio, nos deux super-héros, te sauveront sous les bravos. Tu riras de leurs amis, de Spip, l'écureuil futé, et du marsupilami, l'animal le plus doué. Attention, 1, 2, 3, c'est l'aventure. Le mystère te collera aux chaussures. Car Spirou et Fantasio, malins et rigolos, ont plus d'un tour dans leur chapeau. Attention, 1, 2, 3, c'est l'aventure. Le mystère te collera aux chaussures. Car Spirou et Fantasio, malins et rigolos, ont plus d'un tour dans leur chapeau.
Ici Spirou, qui vous parle depuis le château de Champignac.
Captivant, le magazine de la BD sur RVE vous propose ce soir une émission entièrement consacrée à Spirou, un personnage mythique de la BD belge dont le créateur est pourtant français. C'est en effet Rob Vell, de son vrai nom Robert Velter, qui le dessine sur la première page du premier numéro du journal qui porte son nom, lancé en 1938 par l'éditeur Dupuis. Sur cette première page, on voit Monsieur Papillon, le directeur du Moustique Hôtel, demander à un peintre d'ébaucher la silhouette de son futur groom. Arrosé d'eau de vie, l'esquisse s'anime par miracle, donnant naissance à Spirou dans son costume rouge à boutons dorés. Spirou tire son nom du wallon Spirou, signifiant autant l'écureuil que le garçon facétieux. Sa rencontre avec Spip l'écureuil, qui devient très vite son animal de compagnie, est donc logique. Et Rob Vell lance Spirou et Spip dans des aventures mouvementées et naïves. Mais la guerre éclate. Mobilisé dans l'armée française, Rob Vell doit s'en remettre à son épouse Davine, également dessinatrice, et à leur ami le peintre Lafney pour poursuivre l'aventure en cours sur les scénarios et crayonnés qu'il arrive à leur transmettre. Décédé le 29 septembre 1939, Lafney laisse Davine seul au finissage et obligé parfois d'improviser pour garder constante la réserve de planches en avance chez l'éditeur. Lorsque Rob Vell est blessé en première ligne, puis hospitalisé et fait prisonnier, Davine se trouve à Paris et perd le contact avec l'éditeur de Charleroi. Ce dernier demande alors à Joseph Gillin, dit Gigé, d'assurer l'intérim. Il conclut d'abord en deux planches l'histoire de l'enlèvement du fils d'un milliardaire américain dans laquelle s'était engagé Davine, propose ensuite une courte apparition du héros à Hollywood, puis l'expédie dans le Grand Nord. Le style de Gigé se développe et s'affine durant ces trois mois d'intérim. Lorsque le contact est à nouveau assuré avec Rob Vell revenu à Paris, il restitue Spirou et Spip à leur créateur. Rob Vell les dessine à nouveau pendant 2 ans et demi avant, à l'été 1943, de les vendre à Dupuis. Et tout naturellement, l'éditeur se tourne à nouveau vers Gigé. À la suite d'une demande de son rédacteur en chef Jean Doisy, Gigé crée un personnage plus fantaisiste que Spirou pour donner un petit ton de folie à la série. Fantasio apparaît en 1944 dans le numéro 38 du journal de Spirou.
Nous avons remarquablement fait avancer les choses. Messieurs, nous ferons bientôt notre première plongée d'essai.
Magnifique, monsieur Champignac. Vive Fantasio. Je trouve ça poli de lire le journal pendant une conversation.
Non, mais voyez ici. Mais c'est épouvantable.
Quoi, quoi? Où ça, je vois rien?
L'atelier! C'est à l'atelier!
Les bonbonnes! C'est sans doute les bonbonnes qui ont explosé!
En 1946, Gigé cède Spirou et Fantasio à Franquin au beau milieu de l'épisode intitulé « La maison préfabriquée ». C'est le début de la période la plus fabuleuse de la série, une période qui va durer plus de 2 décennies et correspondre avec l'éclosion du génie d'un des plus grands dessinateurs de l'histoire de la bande dessinée. André Franquin crée un petit monde d'une richesse foisonnante et anime des aventures fondées sur la fantaisie et l'exotisme. Il dessine de sublimes engins volants ou roulants à la turbotraction et imagine l'univers champêtre de Champignac et son célèbre conte aux inventions géniales. On lui doit aussi la journaliste Sécotine, l'univers futuriste de Zorglub, Zantafio, le cousin néfaste de Fantasio, et bien sûr le marsupilami, un animal fantastique découvert en Palombo par Spirou et Fantasio. Au bout d'une dizaine d'années, il éprouve le besoin de renouveler son inspiration et fait appel au scénariste Michel Greg, le futur créateur d'Achille Talon. La série Spirou prend alors un ton légèrement différent et les histoires commencent à refléter de façon explicite l'état d'esprit politique de l'époque. Ainsi, dans Le Prisonnier du Bouddha, Spirou et Fantasio découvrent que le monde est constamment menacé de destruction par le conflit latent qui oppose les blocs de l'Est et de l'Ouest. En 1967, quand il commence à dessiner la première planche de Panade à Champignac, André Franquin sait déjà que cette aventure de Spirou et Fantasio sera la dernière sous sa plume. Il a déjà dessiné plus de 1000 planches des aventures du Groom en rouge et il en a assez. À cette époque, Gaston Lagaffe est déjà devenu l'axe central de la créativité du dessinateur. Spirou est désormais vécu comme une contrainte. À la longue, je me suis rendu compte qu'on ne travaille et qu'on ne s'amuse bien qu'avec les personnages qu'on a créés, estimera Franquin.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier.
Quelle est l'histoire de la série Spirou et Fantasio ? C'est au début de l'année 1968, avec les dernières pages de Panada Champignac publiées dans l'hebdomadaire Spirou, que Franquin met un point final à une aventure graphique commencée 22 ans plus tôt. Pour autant, Franquin viendra à la rescousse de Dupuis et prodiguera ses conseils à son successeur, le jeune Jean-Claude Fournier. Le temps d'un premier épisode réalisé par celui-ci, le Faiseur d'or, Franquin prêtera et animera lui-même son fameux marsupilami. Plus tard, cet animal mythique vivra à son tour ses propres aventures, mais ceci est une autre histoire. Jean-Claude Fournier retire à Spirou son obsolète livret de groom, lui octroyant une tenue plus décontractée, quoique toujours rouge. D'autre part, Fournier, bien dans son époque, donne un ton écologique aux aventures de Spirou. En plein dans cette thématique, L'Encou, paru en 1977, est la meilleure des 9 aventures de Spirou réalisées par Fournier, probablement parce que l'auteur breton a l'idée d'inviter son personnage dans sa région. L'Encou sera d'ailleurs le seul Spirou traduit en langue bretonne. C'est la jeune Aurorea, un des personnages créés par Fournier, qui fait venir Spirou et Fantasio en Bretagne. En arrivant, il rencontre l'étrange Encou, une créature mythique de la région, qui s'insurge contre la présence d'une centrale nucléaire sur ses terres. Jean-Claude Fournier me confiera s'être aperçu que, pendant la parution de L'Encou dans Spirou, son téléphone avait été mis sur écoute, probablement par les RG. En effet, il faut savoir que la lutte contre le nucléaire civil connaît son apogée dans les années 70, et spécialement en Bretagne. Toute proportion gardée, L'Encou est donc un album politique, et c'est peut-être parce qu'il regrette a posteriori de l'avoir édité que Dupuis, 2 ans plus tard, décide de retirer à Fournier la responsabilité d'animer Spirou et Fantasio. Nous sommes en 1979 et l'éditeur lance un concours de scénaristes. De nombreux auteurs maison y participent, parmi lesquels Franck ou, déjà, Le Gall. Deux jeunes gens, Tom et Jean-Ry, envoient le scénario et le dessin d'une histoire intitulée « La voix sans maître » qui sera publiée dans le journal de Spirou en 1981. Mais Dupuis lance au même moment sur la série un second duo, constitué cette fois de 2 vieux mercenaires, le scénariste vedette du journal, Raoul Covin, et un animateur qui a travaillé notamment sur Tintin et le Lac aux requins ou les 12 travaux d'Astérix, Nick Broca. Pour compliquer encore la situation, Dupuis s'offre l'une des jeunes stars de Métal Hurlant, le génial Yves Chaland, qui commence en avril 1982 un strip en noir et blanc intitulé Cœur d'acier. Et 3 séries pour un même personnage, c'est 2 de trop. Le premier à être arrêté est Chaland. En 1983, à la suite d'un changement de rédacteur en chef à la tête de Spirou, le Cœur d'acier cesse de battre. Covin et Broca prennent la porte de sortie peu après Chaland. On ne regrettera pas leur version de Spirou sans imagination et très platement dessinée qui s'arrête en 1984. Tom et Jean-Ry sont désormais les seuls titulaires de la série.
Ah, Fantasio, Spirou, j'attendais votre retour avec beaucoup d'impatience. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Depuis quelque temps, je me livre en secret à des travaux d'une grande importance. Et ce matin, j'ai trouvé. J'ai réussi la synthèse du X4.
La synthèse de quoi ?
Du X4, Spirou, le produit qui multiplie l'intelligence. Je ne vous assommerai pas d'explications scientifiques. Sachez simplement que cet extrait de champignon, en excitant la couche corticale du cerveau, accélérera puissamment le travail de celui-ci. La mémoire, l'imagination, la vivacité du raisonnement se trouveront multipliées par 10. Je vais tenter aujourd'hui une expérience d'une portée prodigieuse. Je vais me faire une piqûre de X4.
Tout en modernisant la série mythique dont ils viennent d'hériter, Tom et Jean-Ry retrouvent la magie de la grande époque. En 1987, le 38e tome de la série, intitulé « La jeunesse de Spirou », donne l'idée d'une série parallèle, chronique humoristique d'une apocryphe enfance du personnage. Le petit Spirou connaît très vite un énorme succès, préfigurant celui de Titeuf, et ce malgré sa vulgarité et ses relents pédophiles. Et paradoxalement, ce triomphe pousse Tom et Jean-Ry à se lasser des aventures de Spirou et Fantasio, au point de tenter d'assassiner carrément Spirou avec la complicité de Dupuis. En 1998, l'album « Machine qui rêve » horrifie les lecteurs de Spirou. Dessiné dans un style plus réaliste, proche de celui de Gazzotti, cette histoire urbaine qui néglige Fantasio et Spip, mais nous propose une sécotine sexy, se termine par la disparition de Spirou dans une explosion qu'il a lui-même provoquée. Il est remplacé par un robot à son image qui part en croisière en amoureux avec sécotine et s'interroge « Je ne sais pas qui je suis ni ce que je vais devenir ». Le but de Tom et Jeanry en signant un album aussi extrémiste est évident, obliger Dupuis à leur retirer la série pour les laisser se consacrer au petit Spirou. Le but est atteint, la série Spirou et Fantasio s'interrompt pendant 6 années. Finalement, Dupuis fait l'erreur de choisir des auteurs à la mode. En l'occurrence, le scénariste Jean-David Morvan et le dessinateur José Luis Munuera. En 2004, le premier Spirou du nouveau duo, Paris sous scène, est un vrai succès commercial et devient le best-seller de la série. Et pourtant, on peut qualifier le choix de Morvan et Munuera d'erreur, puisque leurs excellentes ventes ne parviennent pas à masquer la déception des fans et la dureté des critiques. En 2006, après 2 autres albums, les auteurs sont remerciés pour incompatibilité artistique. Dupuis décide alors de ne pas choisir de repreneur dans la précipitation et de lancer plutôt une nouvelle série intitulée « Une aventure de Spirou et Fantasio par... » point de suspension. Il s'agit d'une collection de one-shot confiée à des auteurs différents. Chaque album propose un point de vue sur la série, historique, esthétique, et n'est pas forcément en phase avec les épisodes contemporains de la série ordinaire. Dans quelques minutes, Franck Le Gall nous rejoindra dans le studio de RVE. Il est l'auteur du 2e numéro de la collection « Les Marées du Temps » paru en 2007.
Plutôt que de croire au bon Dieu qui m'a jamais rendu bien heureux, je me suis hâté de croire au sermon de ma guitare. Je me suis dit nom de Dieu que sans lui j'étais pas si malheureux. J'avais tout lieu de croire qu'il aurait voulu m'avoir. Il aurait voulu mes prières.
Il aurait voulu mes prières.
Et mes genoux dans la poussière. Il voulait mon âme toute entière. Elle avait autre chose à faire. J'ai dit mon pote tu m'en vas pas. Je fais danser le hoppa. Hoppa hoppa hoppa. Hoppa 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 hoppa. Je suis le dieu des paumés, et moi celui des opprimés. Si je n'existe pas, il faudra bien m'inventer. Si vous avez des pêchers, des pommiers ou des oliviers, c'est grâce à Dieu le fumier, c'est lui qui les a créés. Il nous a donné la lumière.
Il nous a donné la lumière.
La Sainte Croix et la bannière. Et quant à la terre promise,
quant à la terre promise,
c'est le gâteau sur la cerise.
Sur la cerise.
J'ai dit mon pote tu mourras pas. Et tous les dieux sont contents, ils rigolent de nous maintenant. Quand on leur a commandé la vie pour l'éternité, ils se disent par Dieu, on est tombé sur des neuneux. Allez, allez les gars, les dieux nous auront pas. Et même si les dieux antiques n'étaient pas si vilains que ça, on n'est pas de la même boutique. On n'est pas né pour l'au-delà. On est là pour le hoopa.
RVE sur 103.7.
Je reçois Franck Le Gall, créateur de Théodore Poussin et dessinateur d'un album de la collection de One Shot, Une aventure de Spirou par un album intitulé Les Marais du Temps. Franck, comment t'es-tu retrouvé à dessiner Spirou ?
Je me trouve avec Sébastien Gneidig, qui était éditeur à l'époque chez Dupuis, qui était mon éditeur sur Repérage. Et Sébastien m'apprend que on va faire donc des one shot Spirou. Enfin, et là évidemment je fais un bond. Quoi? Et moi je suis pas au courant. On m'a pas demandé. Et pourquoi on m'a pas demandé? Et Sébastien a fait l'idiot. Il me dit ça t'intéresserait de faire ça? Toi, et tout. Mais oui, je veux faire ça. Je veux faire. Et il s'amusait parce qu'évidemment il s'attendait très bien à ma réaction. Et il m'a avoué après que mon nom était déjà sur une liste de gens qu'il comptait contacter, mais ils en étaient qu'au début à ce moment-là. Et de moi-même, en rentrant chez moi, j'ai fait une planche d'essai bidon, quoi. J'ai fait une fausse planche de Spirou pour prouver, si besoin était, que je pouvais dessiner Spirou, quoi. Et cette planche, figure-toi qu'elle a été acceptée. Et puis voilà, l'histoire est partie comme ça. Mais c'est moi qui me suis proposé.
Un jour de 1865,
un étranger a caché quelque chose
dans la cave du café. Il m'a ensuite demandé de la murer en disant qu'un jour lointain, le mur s'effondrerait.
Et sur cette planche d'essai, est-ce que tu dessinais déjà bien Spirou et Fantasio ?
Si bien, ça veut dire exactement comme Franquin, non. J'ai pas cherché à faire du Franquin. Non, je les ai dessinés comme ça, à ma façon, très vite. Mais du coup, j'étais pas très bien. J'étais un peu raté. C'est comme si, dans une planche de Théodore, tout à coup, je devais dessiner un petit bonhomme roux avec des cheveux en l'air et puis un grand escogriffe blond. J'aurais très bien pu faire deux personnages comme ça qui seraient passés dans l'univers de Théodore sans que ça se remarque, enfin. Donc j'ai pensé que ce serait aussi simple que ça. Ça l'a pas été. Je les ai dessinés à ma façon, comme ça. Et puis j'ai été gêné quand même assez longtemps sur les planches en me disant j'ai quand même du mal à manipuler Spirou. Fantasio, ça allait, mais j'étais dans une structure assez proche de Théodore, en fait. Une espèce d'ovale, comme ça, très simple à manipuler. Et Spirou, c'était juste une question de trait, parce qu'au niveau du mouvement, tout ça, je me sentais à l'aise, quoi. Je les ai bougés d'une façon qui me convenait, qui était peut-être pas celle de Franquin ou celle de tel autre, tout ça, mais c'était pas grave, c'était ma façon, et j'aimais bien. Mais la tête de Spirou, je me suis aperçu qu'on pouvait pas tourner le dos à Franquin, c'est ça qui est terrible. Et c'est là que cet animal, il était assez doué, je trouve, personnellement, mon opinion. Donc il a bien fallu que je retourne voir Franquin en disant comment tu faisais toi. Et je me suis aperçu qu'il y avait une structure qui n'est pas du tout la mienne, qui n'est pas du tout celle que j'utilise. Et donc j'ai continué à lui tourner le dos, mais j'ai compris pourquoi ça ne serait jamais vraiment totalement la tête de Spirou. Et petit à petit, mine de rien, je suis retombé sur des structures. Attention, hein, mon Spirou ressemblera jamais à celui de Franquin, on n'a pas du tout le même dessin, mais. Mais dans la structure, oui, j'étais obligé de retomber dans l'architecture du visage de Franquin, quoi. C'est obligé. On ne peut pas lui tourner le dos. Ou alors, si, on fait ce que Johan a fait sur son album avec Velman, quoi. C'est-à-dire, on fait table rase, on part complètement ailleurs, quoi. Mais moi, en même temps, j'étais trop proche dès le départ. Mon graphisme n'est quand même pas aux antipodes de Franquin, malgré tout. Quoi.
De quels albums de Franquin t'es-tu le plus inspiré ?
J'ai plutôt regardé Il y a un sorcier à Champignac que les autres Spirou, parce que les personnages n'étaient pas encore dénaturés. Quoi. Graphiquement, c'est vrai qu'ils venaient de créer Champignac, donc c'est ça qu'il avait en tête au départ, c'était ce physique-là. Donc je suis parti plutôt de ça que de la tête qu'on a redessinée 1000 fois, 1500 fois, et qui ressemble plus à rien, qu'on fait automatiquement comme ça, blablabla. Donc je suis reparti de la base, et aussi bien au niveau du caractère des personnages aussi. Mais cela dit, c'était assez facile aussi comme travail, parce qu'on ne m'a pas demandé de reprendre la série, moi. On m'a demandé de faire juste un album. Donc, mais je crois que j'aurais abordé les choses de la même façon, mais en stressant davantage. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea.
summertime and we'll sing again. We go driving on, maybe we'll settle down. If she's rich, if she's not, bring your friends and we'll all go into town.
C'est une émission spéciale entièrement consacrée à Spirou que nous vous proposons ce soir. Depuis 1938, les nombreux auteurs qui se sont succédés à la réalisation des aventures de Spirou ont construit un univers poétique et amusant, peuplé de personnages nombreux et variés. Le plus ancien des compagnons de Spirou, c'est son écureuil, Spip, qui ne parle pas mais n'en pense pas moins. Dans le livre Michel Greg, Dialogue sans bulle, le scénariste confie à Benoît Mouchard. Spip agaçait Franquin, le petit animal de compagnie, toujours prêt à ronger les liens de son maître lorsqu'il est prisonnier, l'emmerdait terriblement. « J'ai donné à Spip un mauvais esprit qui est le mien. » Fin de citation. On l'a vu, le meilleur ami de Spirou, Fantasio, n'a été créé par Jigé que 6 ans après la naissance du Groom en rouge. Personnage à la fantaisie souvent débridée, il est d'abord inventeur, puis journaliste et photographe. Par la suite, Fantasio devient le contraire d'un fantaisiste, un modèle de sérieux à la limite de l'austérité quand, dans son rôle de cadre chez Dupuis, il se trouve en présence de Gaston Lagaffe. Le village de Champignac apparaît dans l'album « Il y a un sorcier à Champignac » en 1951. Et Champignac ne serait pas ce qu'il est sans son maire et sans son châtelain aristocrate. Le maire de Champignac, en assommant ses administrés d'interminables discours remplis de métaphores et de tournures absurdes, permet à Greg de s'entraîner avant la création d'Achille Talon. Pacôme Egesip Adélard Ladislas, comte de Champignac, est l'indispensable savant farfelu de la série, l'équivalent du professeur Tournesol. Avant tout mycologue, c'est-à-dire spécialiste des champignons, c'est aussi un inventeur fécond. C'est au cours d'un voyage de Spirou et Fantasio en Amérique du Sud, raconté en 1952 dans Spirou et les héritiers, qu'est découvert au cœur de la forêt palombienne un animal fabuleux, marsupial ovipare, bien que doté d'un nombril, la fourrure jaune tachetée de noir, une queue interminable avec laquelle il peut tout faire. Le marsupilami n'est vraiment pas un animal ordinaire. Il suit ses nouveaux amis en Europe et vit par la suite de nombreuses aventures à leur côté. Le marsupilami est incontestablement la création la plus géniale de Franquin. Sa vie quotidienne au cœur de la profonde forêt de Palombie est racontée dans un superbe album, Le Nid des marsupilamis, paru en 1956. Lorsque Franquin abandonne les aventures de Spirou et Fantasio, le marsupilami quitte ses amis pour devenir le héros à part entière de sa propre série, dessinée par Baptême.
Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba.
Marsupilami est vraiment le roi de la jungle. Quel frimeur! Moi aussi, je peux le faire.
vas monter là-haut? Tu crois que tu vas y arriver?
Ouais, avec mes biceps, ça et cette liane. Oupa! Au Paris, moi aussi, j'ai appris plein de trucs depuis qu'on vit dans la jungle. Ouda!
La journaliste Sécotine incarne dans la série Spirou le charme et la féminité, mais elle est aussi un sacré pot de colle. Dans le premier épisode où elle intervient, la corne du rhinocéros, Spirou et Fantasio n'arrivent pas à se débarrasser d'elle. D'ailleurs, son surnom, Sécotine, est celui d'une colle spécialement puissante employée en reliure. On apprend dans Machine qui rêve son véritable prénom, Sophie. Terminons le passage en revue des personnages qui entourent Spirou en citant Gaston Lagaffe, homme à tout faire de la rédaction du journal de Spirou, Zorglub, inventeur fou et mégalomane, ancien camarade d'études du comte de Champignac, qui est introduit dans la série par Greg avec l'album Z comme Zorglub en 1961, Aurorea, jeune polynésienne pleine de fougue, créée par Fournier pour remplacer ses cotines qu'il n'arrive pas à dessiner, ou encore Don Vito Cortisone, caricature parfaite du parrain mafieux doté d'une malchance incroyable imaginée par Tom et Jeanry. Les aventures de Spirou ont évidemment été adaptées en dessin animé. En 1992 et 1995, 52 épisodes de 26 minutes sont réalisés par Michel Gauthier d'après le Spirou de Tom et Jeanry. En 2006, une nouvelle série d'épisodes de 26 minutes est réalisée par Daniel Duda et coproduit par Dupuis Audiovisuel et M6.
Tu as mis la valise dans la voiture, Fantasio ?
Monsieur Spirou, que faites-vous ? Vous partez ?
Oui, nos vacances finissent bientôt.
Et pourrais-je voir monsieur le comte ? Je le déciderai à me vendre son sous-marin. Je porte la prime à 7 000 $.
Mon sous-marin, inutile, monsieur Amadrias. Il n'est pas à vendre, je vous l'ai déjà dit.
À aucun prix? Oh, même pas, voyons, disons. 9 000 $, c'est bien décidé? Monsieur Fantasio, tentez donc de convaincre monsieur de Champignac.
C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian et consacré aux aventures de Spirou et Fantasio. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.